Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, dernière partie consacrée à l'ancien Premier ministre Paul Keating, comme nous l'avons fait pour les précédents personnages étudiés, on va s'intéresser à sa vie après avoir été Premier ministre, une fois qu'il s'est officiellement en tout cas rangé des affaires politiques. Très bonne écoute à tous. Alors malgré ce bilan sur le plan économique plutôt intéressant, Paul Keating finalement il va perdre les élections en 96. Après tout, ça fait quand même 13 ans que les travaillistes sont au pouvoir. Et puis bah il va à ce moment-là se retirer de la vie politique. En tout cas, il va renoncer à son siège de député et il va commencer à travailler dans le privé, notamment pour des banques, des grandes banques, la banque Lazare par exemple, mais aussi la banque du développement du gouvernement chinois. Mais je le disais, il est plus politique actif, mais il reste un commentateur très actif, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ses principales piques, en fait, elles vont à l'égard du parti travailliste, justement. Il y a deux points là-dessus que je voudrais aborder. D'abord, c'est sa critique principale, c'est globalement le ton assez martial, on va dire, des derniers gouvernements australiens à l'égard de la Chine. Lui, il trouve que, vous le disiez, hein, qu'il a cherché un petit peu à se rapprocher des pays asiatiques, dont la Chine fait partie. Et sur ce point, en gros, il appelle à un discours plus mesuré, mais parce que il a travaillé par le passé pour cette banque qui dépend du gouvernement chinois, on l'accuse un petit peu, en fait, d'être devenu un espèce d'agent double qui a un lobbyiste pro-chinois en Australie. Est-ce que du coup, ces critiques qu'il formule sur la Chine, elles sont malgré tout entendues ou il est considéré comme inaudible sur ce sujet?
Je reprends les choses dans l'ordre. Effectivement, en 96, il perd le pouvoir. John Howard, le premier ministre australien de droite, devient le deuxième premier ministre à être resté en poste le plus longtemps, et un balancier, John Howard, est premier ministre pendant 11 ans, après une période de 13 ans de gauche au gouvernement. C'est énorme quand même. Donc entre Hawke et Keating, vous avez 13 ans d'affilée de gauche au gouvernement. Nécessairement, à un moment, ça s'essouffle. Ça s'essouffle en termes de politique. Vous avez des gens qui sont bien installés dans leur fauteuil, qui n'ont plus nécessairement autant d'envie et d'agressivité pour mener le combat politique. Et puis, par ailleurs, vous avez une population qui demande le changement, qui veut voir autre chose. Voilà, c'est le jeu de la démocratie. Tout ça s'alterne quand ça se passe bien. Keating a, à l'époque, quasiment 30 ans de service. 69-96, oui, voilà, 27 ans au Parlement. C'est énorme, c'est une vie, c'est même plusieurs vies dans une vie. Et puis, quand on a été aux commandes, on va pas se retrouver à aller siéger dans une assemblée qui est de toute façon absolument dominée par la droite de John Howard. À moins d'être un peu maso et de vouloir en prendre plein la figure à longueur de séance de questions parlementaires, vaut mieux passer à autre chose, et c'est ce qu'il a fait. Et il a mis sa finesse d'analyse économique au service de la banque d'investissement Lazare. Je ne sais pas s'il y a encore, mais il y a travaillé pendant plusieurs décennies jusqu'à assez récemment. Et effectivement, le fonds de développement économique chinois, c'est assez monnaie courante pour un certain nombre d'hommes politiques de faire partie de comment dirais-je de conseils d'administration dans différents pays. Évidemment, la Chine communiste, quand elle cherche à se développer, elle va pas aller recruter des néolibéraux de droite. Elle doit prétendre quand même que ça reste un peu sur le même équilibre, comment dirais-je, idéologique. Et pour ça, Keating, il est parfait, parce qu'en fait, c'est un homme de gauche, on l'a compris, mais qui a mené des politiques économiques de libéralisation. Et donc, Keating, effectivement, sous les années Howard, on l'entend assez peu, parce qu'en fait, bah, il vit sa meilleure vie. Il refait sa vie, il travaille. Il y a d'autres choses. C'est à partir du retour de la fin du gouvernement Howard sur la campagne électorale de Rudd, donc en 2007, que Keating revient vraiment au premier plan politique. Et à l'époque, voilà, entre 96 et 2007, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il revient un peu comme une figure tutélaire de la gauche qui arrive, je sais pas moi. Un peu comme si Mitterrand s'était pointé à la campagne de François Hollande. Bon, Mitterrand est mort depuis longtemps, ça on le sait. Mais juste pour vous donner une idée, c'est-à-dire que on dépoussière, on le sort des placards, et en fait, il a rien perdu de sa finesse intellectuelle, de sa verve. Et donc, il se rappelle au bon souvenir des Australiens, et ça fonctionne plutôt bien. Et les médias, évidemment. Surtout dans notre ère aujourd'hui où on aime bien les phrases courtes, les punchlines, adore Paul Keating, parce qu'en fait, vous allez interviewer Paul Keating, vous êtes sûr de revenir avec du buzz, parce que il va trouver les bons mots, parce que il est toujours un peu dans l'excès. Et effectivement, c'est un grand critique de la droite, hein, évidemment, mais c'est quelqu'un qui ne se prive pas de critiques de son propre camp, comme l'avait fait son mentor, l'ancien Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Jack Lang, qui avait fini par être exclu du Parti travailliste. Et là où Keating est le plus mordant, il y a deux sujets. Effectivement, il y a la Chine. Le gouvernement australien est complètement obnubilé, à l'impression que les Chinois vont envahir Taïwan demain. Enfin, voilà, ils sont un peu dans l'extrême, mais lui est dans l'autre extrême. C'est-à-dire qu'il considère qu'en fait la Chine est un partenaire économique important, le premier pour l'Australie, et que à l'aune des 30 dernières années, eh bien c'est un partenaire qui a contribué significativement au développement économique de l'Australie, et que on a tout intérêt à avoir des relations de bon voisinage avec cette économie parce que c'est dans notre intérêt. Donc là, vous avez un Keating peut-être économique, libéral, ou en fait avec le doux commerce. On ne fait pas la guerre, un peu naïf. Et de l'autre côté, vous avez un gouvernement australien de gauche qui est un peu, comment dirais-je, qui se donne peur à lui-même, bon, peut-être pour des raisons électorales, et qui n'a pas nécessairement raison non plus. Et donc, là où ces deux sujets intersectent en ce moment, c'est l'AUKUS, le pacte entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie, ou Keating,
très critique, ouais, du pacte AUKUS.
Pour lui, c'est un pacte de va-t-en-guerre qui ne débouche sur rien, où on n'aura probablement pas de sous-marin, qui va coûter des milliards, des centaines de milliards à l'Australie, pour absolument rien, pour une politique ancienne, celle qu'il avait lui-même combattue, c'est-à-dire Canberra qui prend ses notes de Londres, puis à partir des années 40, qui prend ses notes de Washington, et puis en bon petit soldat, on obéit, on se déploie dans toutes les guerres, on nous emmène. Donc ça, pour lui, c'est absolument aberrant, c'est d'un autre temps, il refuse ça. Mais il articule pas non plus une politique de défense nationale souveraine. Donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on a beau jouer de critiquer parce que il est pas d'accord, mais du point de vue sécuritaire, il faut quand même pouvoir se protéger. Donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est que il a probablement pas tort sur la dimension géostratégique et économique. En revanche, sur la défense et sur la protection, peut-être que bon, voilà, ces idées ont fait leur temps, quoi.
Three iconic Australians experienced firsthand what it takes to save a life.
Oh my gosh.
Terrifying.
I have no idea what I'm about to do.
The Hospital.
In the Deep End. Stream free on SBS On Demand.
Ouais. Bon, toujours est-il, je dirais juste ça en plus, que les derniers développements autour du dossier AUKUS semblent plutôt lui donner raison, puisque les dernières informations venues des États-Unis montrent que on réfléchit désormais ouvertement à une option où Washington ne livre aucun sous-marin à l'Australie en cas d'attaque à Taïwan, puisque Richard Marles, le ministre de la Défense d'Anthony Albanese, a expliqué que si les États-Unis entraient en guerre avec la Chine autour de la question de Taïwan, les Australiens les suivraient pas forcément automatiquement. Et à partir de là, certains à Washington estiment qu'on ne peut pas faire confiance aux Australiens et qu'il vaut mieux donc garder ses sous-marins. Mais le fait est que Paul Keating, au-delà de ses critiques, n'offre pas d'alternative. Merci beaucoup Romain pour toutes ces explications. Le prochain épisode, ce sera le dernier sur cette longue série sur les premiers ministres australiens. On s'intéressera cette fois au successeur de Paul Keating, le conservateur John Howard, l'un des premiers ministres à la plus importante longévité, qui a durablement marqué l'histoire de l'Australie. Donc restez branchés, on se retrouvera très prochainement pour en parler. Et Romain, encore une fois, merci pour vos explications, vos éclairages sur toutes ces personnalités.
Merci à vous et merci à tous.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.